Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de vivre libre pour donner et pour recevoir. En effet, donner et recevoir sont deux gestes profondément humains et humanisants. Nous connaissons peut-être des personnes qui ne savent pas donner. C'est difficile à vivre. Mais les personnes qui ne savent pas recevoir, qui ne savent pas accueillir ce qu'on leur donne, ne sont pas moins difficiles à vivre. L'évangile de dimanche dernier, en Jean 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine au bord d'un puits portait justement sur cette question de donner et de recevoir. Il commence par une demande de Jésus: Donne-moi à boire. Jésus lui-même se met dans une situation de demande. Mais dans l'échange avec la femme, il sera aussi en position d'offre. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette eau vive, Jésus la propose comme à désirer et à accueillir. Quiconque en boira n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissant en vie éternelle. Ce que Jésus donne, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas quelques litres d'eau, mais c'est une source. Cette source coule, elle ne se possède pas, elle s'accueille. Si nous l'accueillons, elle devient en nous source jaillissante et elle peut en désaltérer d'autres. Retenons pour le moment ce mouvement d'un don premier qui s'offre à nous, qui vient de Dieu et qui demande à être accueilli pour couler de source vers d'autres. Qu'est-ce qui peut entraver ce mouvement de don et d'accueil du don ? Pourquoi donc s'interroger sur la liberté quand il s'agit de donner ? Donner n'est-il pas, par définition, un geste spontané, donc libre ? Peut-être pressentons-nous que ce n'est pas si simple, sans être nécessairement, comme la Samaritaine, encombrée par 5 maris. En effet, la liberté n'est pas toujours au rendez-vous. Il existe des dons étouffants, tellement certains donateurs semblent exiger de nous une contrepartie. Par exemple, des parents qui ont tout fait pour leurs enfants et qui, ne recevant pas ce qu'ils attendent en retour, se livre à des reproches sur l'air de « après tout ce qu'on a fait pour toi ». Il existe des cadeaux empoisonnés, des cadeaux qui visent à manipuler l'autre. Le don peut toujours être enrôlé au service de la domination de l'un sur l'autre, ou de la rivalité. C'est à celui qui donnera le plus pour épater la galerie. Dans ce cas, le don n'est pas au service de la liberté, bien au contraire. Le don est-il alors nécessairement contraignant, car pris dans la triple obligation décrite par Marcel Mauss de donner, recevoir, rendre? Sans doute est-il possible de vivre le geste du don, comme sa réception, de manière libre et heureuse. Nous essaierons de voir comment. Si notre liberté peut être entravée, si un don peut être étouffant, c'est parce que le don a partie liée avec la relation. Donner, c'est créer ou entretenir une relation. Donner, c'est prendre le risque de la relation. Or, toute relation peut être piégée, tordue, y compris notre relation avec Dieu. Dieu nous a tout donné, certes, mais comment vivons-nous cette relation? Ce donateur très aimant peut être perçu comme tyrannique. C'est là le piège qu'avait repéré Maurice Bellet dans son livre au titre évocateur « Le Dieu pervers ». Je le cite « Dieu est amour, il donne tout, il pardonne tout, il se donne lui-même jusqu'à mourir pour nous en son Fils sur la croix. Seule condition, croire et l'aimer. Et comment ne l'aimerions-nous pas comme il nous aime? La vraie vie, c'est de lui donner tout et porter notre croix. Dieu aime tant qu'il exige tout. Il veut pour lui seul tout notre désir. Mais alors, il ne nous aime pas. Découverte terrible. Le Dieu bon n'est pas bon, mais cruel et pervers. » Fin de citation. Où est le piège? Penser que ce Dieu d'amour ne désire pas notre liberté et qu'il n'y a pas moyen d'échapper à cet amour étouffant. On en souffre ou on le refuse. Dans les deux cas, on se condamne soi-même. Il est alors urgent de convertir notre image de Dieu. Un donateur étouffant ne serait-ce pas un Dieu à notre image? Autre piège, quand on fait croire de manière naïve et illusoire qu'un don total est possible. Et si vous n'arrivez pas à vous donner totalement, c'est que vous n'êtes pas de bon chrétien ou pas de bon religieux. Malheureusement, certaines communautés qui manquent de sagesse et de discernement jouent sur cette corde sensible. La liberté des personnes peut alors être mise à mal. Le don a partie liée avec la relation, disions-nous. Et dans la relation, la réciprocité est très importante. Réciprocité ne veut pas dire rendre en retour. Réciprocité ne veut pas dire équivalence, mais que l'autre puisse donner à son tour. Car un don qui se voudrait sans retour ne serait-il pas une négation du receveur? Savoir recevoir est peut-être aussi important que savoir donner. En tout cas, cela nous fait sortir de la position du donateur héroïque, très belle image, mais sans doute un brin narcissique. La liberté nous invite à accepter de recevoir à notre tour, à permettre que l'autre soit donateur à son tour. Cela est important pour sortir de l'assistanat. Par cette relation, les personnes deviennent partenaires les unes des autres dans une alliance. De même que nous sommes appelés à devenir partenaires de Dieu dans son alliance. Il s'agit alors de vivre une vraie liberté au cœur de cette alliance. Articuler la gratuité, qui est fondamentale dans toute relation authentique, avec les termes de l'alliance. Comme dans l'alliance biblique, où l'engagement de Dieu est gratuit, n'est motivé par rien d'autre que son amour pour son peuple, et où cependant une loi à respecter est donnée au peuple. De fait, certaines règles fondamentales sont à respecter pour donner et recevoir, pour éviter de faire pression sur l'autre, pour que le don ne devienne pas du chantage, ou pour exprimer une reconnaissance, une gratitude. Mais ces règles ne s'opposent pas à la gratuité. La gratuité, c'est ce qui élargit sans cesse le cercle des échanges. Nous sommes invités à ne pas donner seulement à nos amis, à ceux qui nous aiment, mais aussi à l'étranger, à l'inconnu, et même à l'ennemi, nous dit l'Évangile. C'est ici que le sermon sur la montagne chez Matthieu ou le sermon dans la plaine chez Luc est éclairant. Prenons-le dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6, versets 27 à 38. C'est un passage bien connu qu'il est bon de réentendre en ce temps de carême. Jésus déclarait à la foule : « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez, quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Dans cet évangile, il s'agit de donner aux autres dans une attitude de générosité qui donne et pardonne. Et le don va jusqu'à s'exercer dans un contexte de dissymétrie. Le passage commence en effet par quatre recommandations de don dissymétriques. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Et elle est suivie par quatre invitations concrètes à la générosité en situation d'injustice. Présentez l'autre joue, donnez son manteau et même sa tunique, ne pas réclamer au voleur, etc. Quelle force d'âme, quelle liberté intérieure ne faut-il pas pour vivre une telle dissymétrie et pour la vivre dans une perspective de don et non pas de revanche. On ne peut pas aller plus loin dans l'absence de réciprocité. Et pourtant, surprise, tout de suite après, la réciprocité s'invite sous la forme de la règle d'or. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Au sein de la dissymétrie, retentit l'appel à se mettre à la place de l'autre, à faire pour lui ce qu'on voudrait qu'il fasse pour nous. Avec la règle d'or, il s'agit simplement, mais c'est déjà énorme, de donner à l'autre ce qu'on aimerait recevoir. Et le texte de Luc continue en invitant à nouveau à un don dissymétrique. Ne pas prêter seulement quand on est sûr qu'on va nous rendre. L'Évangile souligne les limites des systèmes fermés, des horizons clos, où on est entre soi. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, ça ne va pas bien loin. L'Évangile nous invite à élargir l'espace de notre tente, à ouvrir le cercle du don, même si c'est à perte. Et pourtant, là encore, surprise. Ce don qui ne calcule pas en fonction d'un éternel retour n'est pas non plus en pure perte. car une récompense est promise, celle qui vient du Père. Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer en retour, alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. C'est l'invitation à nous tenir dans la confiance que, en sortant de nos petits réseaux, nous recevrons de Dieu autrement, autre chose, plus abondamment. Dans ce circuit du don, c'est le Père qui est le garant ultime. De même dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6 qui ouvre le carême, nous avons entendu cette promesse « Ton Père te le rendra ». C'est de lui que vient la véritable récompense, celle dont nous ne savons ni quand ni comment elle nous arrive, si ce n'est qu'elle nous fait entrer dans notre véritable identité, devenir ses fils et ses filles bien-aimés à l'image du Fils unique. Ce Père, qui est le garant ultime de la circulation des dons, le don qu'il nous fait lui-même, est-il vraiment gratuit ? Certes, il n'est pas en fonction de nos mérites. Cela est une bonne nouvelle, libérante. Mais n'attend-il pas quelque chose de nous en retour ? Sans doute, mais encore faut-il bien le situer pour ne pas tomber dans les pièges que j'ai mentionnés tout à l'heure. Car Dieu respecte notre liberté et en même temps, il s'intéresse à la manière dont nous allons faire fructifier le don reçu. Dieu n'est pas ce donateur un peu lointain et méprisant qui ne veut rien savoir de notre capacité à recevoir et à donner à notre tour. Nous pourrions relire dans ce sens la parabole des talents. Le maître est heureux quand les serviteurs prennent des risques pour faire fructifier ce qu'il leur a donné. Mais il est attristé par la peur et la méfiance du troisième serviteur. À quoi sommes-nous invités au terme de ce parcours ? À une attitude de reconnaissance et de gratitude qui nous libère de l'enfermement sur nous-mêmes et de l'ingratitude. Je rapproche cela de la grâce qu'Ignace nous fait demander dans les exercices lors de la contemplation pour parvenir à l'amour, demander une connaissance intérieure de tout le bien reçu afin que par une pleine reconnaissance je puisse en tout aimer et servir sa divine majesté. Cette demande peut se lire selon un triple mouvement. D'abord, connaître le don de Dieu. Ensuite, le recevoir par la reconnaissance. Enfin, lui répondre par toute notre vie, aimer et servir Dieu en tout. Cette reconnaissance du don de Dieu dans nos vies va de pair avec la reconnaissance de nos propres limites. Une reconnaissance qui n'est pas écrasante, mais plutôt libérante. Elle conduit à la gratitude qui ne va pas de soi. La gratitude se heurte à notre désir de nous construire tout seul ou à la jalousie. On peut réfléchir à son contraire qui est l'ingratitude, une manière de nier ce qu'on a reçu ou même de nier le fait d'avoir reçu. La gratitude, c'est une forme de fidélité, de mémoire. L'ingratitude est du côté de l'oubli. La caractéristique de la gratitude, c'est de ne pas être exigible. En effet, comment obliger quelqu'un à éprouver de la gratitude? Mais de survenir de manière imprévisible. Elle nous tourne alors vers l'avenir, vers la fécondité du don de Dieu dans nos vies. Cette attitude profonde de gratitude permet d'échapper à la récrimination ou revendication, comme à la hantise de devoir toujours rembourser ce qu'on a reçu. On accueille pleinement ce que l'on reçoit, on a conscience qu'on est toujours précédé par un don premier et on se situe de manière juste et libre. Cela s'acquiert et se reçoit peu à peu. C'est le fruit d'une vie vécue sous la mouvance de l'esprit. Une telle reconnaissance pour les dons reçus suppose un cœur désencombré de lui-même. C'est une expérience de liberté. Nous pouvons la vivre dans les grandes comme dans les petites choses de la vie. Souvenons-nous de Georges Brassens qui parlait de 4 bouts de pain reçus au milieu de la faim qui brûlent pour toujours dans l'âme à la manière d'un grand festin. Et aussi de 4 bouts de bois reçus au milieu du froid, qui brûlent encore bien après, dans l'âme, à la manière d'un feu de joie. Elle est à toi, cette chanson, toi qui m'as donné ces petits riens. Ce sont ces petits riens qui, pour Brassens et pour nous aussi, crée de façon inattendue de la gratitude. Introduise à la découverte et à la reconnaissance de la vie. Une vie qui n'est plus régie par le manque de ce qui se compte, mais par l'abondance de ce qui ne se compte pas.